très bonne introduction à ce qu'on va partager. Et des éléments de ce témoignage se retrouveront aussi tout au long de cette prédication. Donc merci pour ce partage, comme quoi quand Dieu conduit les choses, des fois on pointe vers le même but. On se demande souvent quand la fin du monde aura lieu. On recherche des signes d'accomplissement dans les prophéties, et même les plus audacieux annoncent même des dates. Ce matin, je souhaite faire partie des audacieux. Et j'aimerais vous proposer une date. Une date qui annonce de manière imminente la fin du monde. Je dirais à la fin. Non, pour que vous puissiez écouter, je la dis maintenant. Il s'agit du 24 août de l'an 410. Cette date, je ne l'ai pas trouvée en scrutant les prophéties bibliques, mais plutôt en ouvrant un livre d'histoire. Et le 24 août 410, c'est le jour où Rome est tombée aux mains des Visigoths. Et beaucoup pensaient que la fin du monde était imminente. Beaucoup, mais pas Augustin. Augustin, évêque d'Hippone en Afrique du Nord. Lui, il était d'un tout autre avis. Et il l'a exprimé dans son livre très connu, La Cité de Dieu. C'est un gros livre, mais qui raconte l'histoire de deux cités. Deux cités qui s'affrontent dans des conditions infiniment inégales. Il y a d'abord la cité de l'homme, représentée par Rome, et puis la cité de Dieu, représentée par la véritable Église chrétienne. Au cœur de la cité des hommes, de Rome, se trouve un esprit moteur, c'est l'amour de soi et le mépris de Dieu. Et au cœur de la cité de Dieu se trouve un esprit moteur, mais opposé, c'est l'amour de Dieu et le mépris de soi. Alors pendant tout un livre, Augustin va expliquer la lutte entre ces deux cités. Ces deux cités qui luttent pour la gloire, cité de Dieu et cité des hommes. L'amour de Dieu finalement contre l'amour de soi. Alors laquelle des deux gagnera ? Ésaïe nous en donne un petit aperçu, déjà même au 8e siècle avant notre ère, et je vous invite à lire Ésaïe 2, les 5 premiers versets. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre.
Waouh, c'est beau.
On a là de précieuses indications concernant l'issue de la lutte entre ces deux cités. Ici, la cité de Dieu ressemble à une montagne. Et l'image n'a rien d'anodin. Dans le Proche-Orient ancien, de nombreuses religions parlaient de montagne comme d'un lieu de prédilection pour connecter l'humain et le divin. On retrouve beaucoup de temples et d'autels au sommet des montagnes. L'exemple le plus probant dans l'Ancien Testament, c'est le Sinaï. Moïse doit monter sur la montagne pour recevoir la révélation de Dieu. Donc l'image de la montagne n'a rien d'extraordinaire. C'est une image tout à fait commune qu'Ésaïe reprend. Mais Ésaïe nous donne là une précieuse indication. Dans sa vision, il ne voit qu'une seule montagne. Une seule montagne sainte. Il n'y en a pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais une seule montagne sainte qui dressera sa suprématie sur toutes les autres, les réduisant au ridicule. Dans ces versets, Ésaïe nous présente cette vision de manière assez exclusive. Seule une montagne, la montagne de Dieu, dominera sur les autres. Aucune autre ne peut rivaliser avec elle. Alors, est-ce que Dieu est exclusif? Oui et non. Mais oui, il est exclusif d'une certaine manière. Il n'y a rien d'autre, ni personne qui peut partager sa souveraineté. Et ça, Ésaïe le souligne. Mais il n'est pas qu'exclusif, il est aussi inclusif. Et Ésaïe nous le révèle aussi au verset 2 et 3 quand il dit « Et toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Toutes les nations sont invitées à affluer sur cette montagne et à partager avec Israël ses bénédictions. Cette vision nous montre de manière assez claire que la cité de Dieu remportera la lutte avec la cité des hommes. Ce chapitre 2 s'ouvre avec cette vision glorieuse de restauration. La montagne de Dieu qui dominera toutes les autres. Et si Ésaïe nous donne cette vision en entrée de son chapitre 2, c'est qu'il a envie que ses premiers auditeurs s'engage à vivre à la lumière de cette glorieuse perspective. Et cet appel est encore valable pour nous aujourd'hui. Cette vision future de cette montagne de Dieu qui dominera sur le monde, c'est notre espérance qui est devant. Et Ésaïe nous dit aussi à nous, voilà ce qui est devant. Alors apprenez maintenant à vivre avec cette espérance qui est devant. Voilà un message encourageant, n'est-ce pas? Vous dites peut-être que vous avez un gentil pasteur qui vous donne des messages encourageants avec des belles prophéties. Mais, je vais continuer la lecture et ça sera un peu moins cool. Je poursuis au verset 6, où il est dit « Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, » parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux, ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Amen. Le ton change. De la glorieuse promesse, Ésaïe nous ramène à notre réalité. Cette réalité qui montre que le peuple d'Israël était spirituellement corrompu. Ils ont pris des religions d'Orient. Ils font confiance à leur richesse d'or et d'argent et ils mettent leur assurance dans leur puissance militaire. Voilà trois reproches qui sont faits à l'Israël du 8e siècle avant notre ère et j'ose croire que ce même trio se trouve aisément dans nos sociétés occidentales. On glane du religieux un peu à gauche à droite pour essayer de s'élever soi-même. On fait confiance dans nos richesses, nos possessions, et même dans nos dépenses militaires. Il n'y a qu'à voir les budgets de ces dernières années qui vont croissant. Le monde n'a pas changé. Mais pourquoi alors ce changement abrupt entre cette vision glorieuse du règne de Dieu qui s'établit et puis ce dur retour à la réalité ? Ésaïe a commencé par nous donner le dessert, la vision finale. Cette vision finale, on la retrouve à la toute fin du livre. Et en 66 chapitres, Ésaïe a pour objectif de prendre le peuple d'Israël là où il est et de le faire cheminer avec un changement moral, spirituel, etc., de le faire cheminer jusqu'à cette vision glorieuse. 66 chapitres, il est patient. Il n'a pas écrit ça en quelques jours, c'est sur les années que ça se passe. Chapitre 2, début du livre, Ésaïe nous ramène à notre état, notre point de départ, pour réfléchir à comment vivre selon cette glorieuse révélation des 5 premiers versets. Si on poursuit un petit peu notre lecture au verset 11 et 12, je saute quelques versets, c'est volontaire, j'ai l'ambition de couvrir tout un chapitre. Puis Ésaïe, c'est pas du gâteau. Versets 11 et 12, qui nous dit « L'être humain sera abaissé avec son regard hautain, la grandeur des hommes devra s'incliner, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. » En deux versets, Ésaïe nous donne le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'esprit de supériorité. Et cet esprit de supériorité ne peut avoir qu'une seule issue possible, c'est une confrontation avec Dieu, qui s'appelle ce jour-là, ou ailleurs, le jour du Seigneur. L'esprit de supériorité conduit les contemporains d'Ésaïe à attendre le jour du Seigneur comme un jour où le Seigneur viendrait détruire tous les ennemis d'Israël. C'est un jour de délivrance où notre orgueil peut être mis en avant. Mais Ésaïe, comme d'autres prophètes, se sont bien rendus compte de l'enjeu. Le peuple avait enlevé de sa ligne de mire cette vision glorieuse du règne de Dieu qui doit s'établir dans les 5 premiers versets de ce chapitre 2. Ils pensaient que Dieu devait servir leurs intérêts et non plus le contraire. Faisons pas forcément les malins, parce qu'on peut vite tomber dans le même écueil que les contemporains d'Ésaïe, où Dieu doit servir nos intérêts. Ou même si on ne voit pas les choses s'accomplir comme on le souhaiterait, on a tendance à s'assoupir. Puis finalement, notre espérance est quelque chose de lointain. Puis en attendant, je suis sauvé, je suis chrétien, je vais au culte. Je prends la scène, j'attends ce jour-là, mais en même temps, je m'assoupis un peu. Je suis dans une salle d'attente confortable, assis avec mon billet pour le ciel. Ésaïe nous parle d'un jour du Seigneur qui doit nous tenir alerte. Et comment se manifestera ce jour du Seigneur? Alors je vous propose de poursuivre encore la lecture au verset 20 et 21 qui dit « Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux, en argent et en or, qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans le creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. » Ésaïe nous prévient que le jour du Seigneur sera terrible. Amen, oui. Oui, terrible, oui. Ça dépend pour qui. Amen. Mais toutes les choses, ce jour-là, toutes les choses dont lesquelles les hommes auront mis leur confiance seront balayées. Verset 18 dit « Tous les faux dieux disparaîtront. » C'est un jour terrible. Toutes les sécurités seront balayées parce que cette montagne s'installera. Mais il y a aussi un aspect positif au jour du Seigneur. Tu pourras dire « Amen » après. Alléluia. Ce jour-là, les orgueilleux seront humiliés et le Seigneur sera glorifié. Et toutes celles et ceux qui croient en lui participeront aussi à ce glorieux événement. Alléluia, voilà. Alléluia. Ce jour du Seigneur ne peut être appréhendé que par la foi. Mais un jour, il sera évident aux yeux de tous. C'est ce qu'Ésaïe cherche à nous montrer. Et quand on parle du jour du Seigneur, j'aimerais bien citer ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, qui décrit ce jour. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le jour du Seigneur est terrible pour certains et glorieux pour d'autres. Le jour du Seigneur, c'est la menace la plus grande qui soit. C'est Esaïe qui le dit. Toutes nos sécurités, et j'irais même à dire toutes nos idoles, seront balayées ce jour-là. Pourtant, cette menace ne doit pas nous terrifier, mais elle doit nous interroger. Où est-ce que je place ma confiance? Pour reprendre Augustin, est-ce que je place ma confiance dans la cité des hommes, avec l'amour de soi pour moteur? Où est-ce que je place ma confiance au cœur de la cité de Dieu, avec l'amour de Dieu pour moteur? Si vous ne savez pas quoi répondre à cette question, je vous propose une réponse d'Ésaïe, verset 22. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur. Comme pour les contemporains d'Ésaïe, ce message a pour but de réorienter notre vie sur l'espérance chrétienne, l'espérance qui est la nôtre. Arrêtons de placer notre confiance dans des choses futiles, dans des relations, dans une carrière, dans nos richesses, dans notre influence, dans notre pouvoir, pour la placer en Dieu. Parce que toutes les autres montagnes seront dominées lors du jour du Seigneur. J'ai terminé la première partie de ce message consacré à l'espérance. Et puis Jonathan nous a parlé de notre vision qui était porteur d'espérance. Alors je dois quand même dire un petit mot sur ce que ça veut dire d'être porteur d'espérance. Et c'est là que c'est ma deuxième partie de message. J'aimerais parler de ce mot porteur. Et j'aimerais revenir à cette vision glorieuse, comme ça on finit quand même sur une bonne nouvelle. Cette vision glorieuse des 5 premiers versets où nous sommes en cheminement sur la montagne sainte du Seigneur. J'aimerais relire ce verset 3 qui dit « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Ça veut dire simplement qu'il y a des personnes qui sont sur le chemin de cette montagne, qui marchent en direction du jour du Seigneur sereinement, mais qui invite aussi d'autres à les rejoindre. L'invitation d'Ésaïe est somme toute le fait de venir à la montagne du Seigneur, mais aussi de dire « viens, viens, change de cité, mets-toi en route avec moi pour la cité de Dieu ». Voilà ce que signifie d'être porteur d'espérance. de pouvoir dire à quelqu'un « Viens avec moi, faisons un bout de chemin ensemble en direction de la cité de Dieu. » Et ce chemin nous demande sans cesse de nous réajuster, de garder comme ligne de mire cette espérance que nous avons. Je vous invite à la prière. À la lumière des paroles d'Ésaïe, je suis appelé à garder en ligne de mire le jour glorieux de ta venue. Ta venue qui révélera ta gloire et la futilité des sécurités de ce monde. Alors que le prophète Ésaïe m'encourage à me défaire de ce qui peut faire obstacle à te faire pleinement confiance, Saint-Esprit, je t'invite à sonder mon cœur. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où mes sécurités étaient davantage dans les œuvres de mes mains qu'en toi. Donne-moi la force et le courage de me réaligner sur l'espérance glorieuse que tu nous offres. C'est ce moteur-là que je désire pour ma vie. Donne-moi le courage de gravir cette montagne sainte, de marcher en direction de la cité céleste et de voir mes compagnons de route. Et de leur dire « Viens, allons-y ensemble. » Oui, Seigneur, que ma vie, que l'œuvre de mes mains soit consacrée seulement à gravir cette montagne sainte, à rechercher la gloire de ton nom. Amen.